journal avec vous, Kevin Dufraîche. Bonjour.
Bonjour à tous. À quand une troisième dose de vaccin anti-Covid en France? Question alors que la campagne de rappel a commencé en Israël et que l'Allemagne la lancera en septembre. Emmanuel Macron avait promis cette troisième dose dans sa dernière allocution le 12 juillet. On fait le point dès le début de ce journal. Le Covid qui frappe fort en Guadeloupe. L'île est à son tour reconfinée. Le préfet parle d'une tendance folle de l'épidémie Covid et vaccination. Des sujets entre autres au menu des discussions avec votre invité à 8h20, Hélène.
Oui, dans le grand entretien, Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée. On parlera aussi des antipasses et bien sûr de la présidentielle. L'union de la gauche est-elle possible? Notre invité et vos questions, chers auditeurs, appelez-nous, on vous attend au standard 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
Dans ce journal encore, l'Iran change de président. Ebrahim Raisi investit aujourd'hui sur fond de nouvelles tensions avec Israël et les États-Unis. Une condamnation très attendue au Honduras. Un chef d'entreprise encourt 30 ans de prison pour avoir commandité le meurtre d'une militante écolo. Nous serons à Tokyo où Renaud Lavillenie rêve d'une troisième médaille olympique en saut à la perche malgré une entorse de la cheville. Et puis rendez-vous avec le capitaine Fracasse, nouvelle adaptation théâtrale du roman de KPDP signé par l'une des figures de la série Kaamelott.
France Inter.
Et une, et deux, et finalement trois doses de vaccin anti-Covid. L'Allemagne a annoncé hier qu'un rappel serait proposé dès le 1er septembre aux personnes âgées et vulnérables, ainsi qu'à ceux qui n'ont pas reçu de vaccin à ARN messager. En Israël, cette campagne de troisième dose a déjà commencé. Quid alors de la France? Le sujet a été évoqué à plusieurs reprises par l'exécutif, le président de la République en tête. Mais Hélène Chevalier, la mise en place n'a pour l'instant pas été précisée.
Actuellement, en France, des troisièmes doses sont déjà administrées, mais uniquement à des patients immunodéprimés, car même après la vaccination, c'est greffé sous dialyse ou chimiothérapie, fabrique peu d'anticorps. La baisse de l'immunité pourrait aussi toucher les personnes les plus âgées, vaccinées cet hiver, et dont la protection ne serait plus suffisante pour résister notamment aux variants Delta. C'est pourquoi Emmanuel Macron a souhaité les rassurer le 12 juillet dernier, en promettant cette troisième dose rapidement.
Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là où les premières.
Hier, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a précisé que cette troisième dose ne concernerait que les personnes les plus fragiles, les très malades, les très âgés, au-delà de 75-80 ans, mais pas la population générale. Dans un avis rendu mi-juillet, la Haute Autorité de Santé estime en effet que les données disponibles pour le moment ne permettent pas d'évaluer précisément l'impact ni la nécessité d'un tel rappel, et ce, quels que soient les vaccins administrés. Contrairement à l'Allemagne, une troisième injection avec un vaccin ARN messager pour les personnes piquées à l'AstraZeneca ou au Johnson n'est donc pas non plus envisagée.
Hélène Chevalier, avant d'envisager la troisième, près de 43 millions de Français ont ce matin reçu au moins une dose de vaccin, soit quasiment deux tiers de la population, un chiffre moins bien élevé en Guadeloupe, où c'est le cas d'à peine 30% des habitants et où il y a donc un risque de voir plus de patients Covid arriver à l'hôpital. Alors après la Martinique et la Réunion, l'île va à son tour être reconfinée à partir de demain soir. Fermeture des bars, limite de déplacement dans un rayon de 10 km et couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Des mesures pour faire face à ce que l'Agence régionale de santé de Guadeloupe qualifie de situation catastrophique, pire que les vagues précédentes, avec un taux d'incidence de plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat.
On est sur une tendance folle, concrètement, en termes de taux d'incidence et en termes de taux de positivité. Et il est, je crois, indispensable de casser la dynamique très vite. En octobre dernier, qui a été la vague, qui a été la plus importante, on était à 1000 cas par semaine. Et on a eu des difficultés à traiter au CHU, puisqu'on a demandé des renforts, et notamment des renforts du service de santé des armées. Là, aujourd'hui, on est à 3100 cas pour cette semaine, trois fois plus. Et puis surtout, c'est la dynamique et c'est la pente, puisque qui ressemble à un mur. Les causes sont multiples, mais vraisemblablement, on a depuis le mois de juillet une baisse assez forte des gestes barrières et de la prévention et de toutes les précautions dont s'entouraient les gens entre eux dans leurs relations. On a des fêtes qui sont organisées. On a aussi un petit déni de quatrième vague, puisqu'on entend parfois des gens qui nous expliquent qu'en fait, il n'y a pas de Covid et c'est nous qui l'inventons.
Le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat, interrogé par Maxime Tellier. Au niveau national, les hospitalisations pour cause de Covid continuent d'augmenter. 1232 patients sont en soins critiques en France ce matin. 114 admissions en moyenne chaque jour, soit une hausse de 80% sur une semaine. À l'étranger, le Maroc se referme à son tour pour lutter contre une nouvelle vague de coronavirus. À compter de ce soir, couvre-feu entre 21h et 5h du matin notamment. Et le Covid fait sa réapparition là où il est né, dans la ville chinoise de Wuhan, qui va dépister tous ses habitants. Après la découverte de 3 nouveaux cas hier, les premiers depuis mai 2020, la Chine confrontée dans plusieurs régions à l'apparition du variant Delta ces dernières semaines.
Le nouveau président investi en Iran aujourd'hui.
Ebrahim Raisi, élu en juin dernier, va officiellement succéder à Hassan Rouhani, prise de pouvoir à Téhéran dans un contexte tendu avec les pays occidentaux. Après l'attaque au drone d'un pétrolier israélien en fin de semaine dernière en mer d'Oman, attribuée à l'Iran par plusieurs pays, et alors que les négociations sur l'épineux dossier nucléaire patinent toujours, Bertrand Galichet.
Dans l'agenda du nouveau président iranien, la priorité est l'amélioration de la situation économique du pays, étouffée par les sanctions américaines. Sauf que pour y parvenir, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi ne semble pas prêt à faire des concessions aux États-Unis sur la question du nucléaire. Placé par Washington sur la liste noire des responsables iraniens pour son rôle supposé dans les exécutions massives d'opposants en 1988, le nouveau président est sur la ligne du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, à savoir faire confiance à l'Occident ne fonctionne pas. Sous la présidence d'Ebrahim Raisi, l'Iran pourrait donc se tourner davantage encore vers la Chine et la Russie, les seuls en capacité de soutenir l'économie iranienne, dans l'attente d'un hypothétique accord sur le nucléaire. Encore faut-il que le dialogue du président iranien avec les Occidentaux puisse commencer. Après l'attaque jeudi dernier d'un pétrolier israélien par un drone, les États-Unis annoncent une réponse collective contre l'Iran, qui se dit étranger à cette affaire, mais promet de riposter à toute initiative occidentale.
Bertrand Galichet qui évoquait cette attaque par un drone en mer d'Oman d'un pétrolier israélien, énième épisode d'une guerre froide qui ne dit pas son nom, à tel point que les cours du pétrole, si sensibles d'ordinaire à ce genre d'événement, n'ont pas bougé. Explication de Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
On serait presque tenté de dire que les marchés pétroliers sont blasés. Le marché pétrolier est habitué depuis 2019 à plusieurs attaques dans cette région sensible visant des navires, notamment mais pas uniquement des navires pétroliers. Et finalement, les réactions du marché pétrolier sont relativement faibles, à condition évidemment que les choses ne dérapent pas. Si cette guerre, qui n'a pas été déclarée, entre l'Iran et Israël devait déraper, bien sûr, les marchés pétroliers serait certainement orienté encore plus à la hausse du fait de ces tensions. Mais pour l'instant, ils estiment que ces tensions auxquelles ils se sont un petit peu habitués sont des tensions gérables tant qu'elles ne dérapent pas vers une guerre chaude.
Francis Perrin interrogé par Manuel Ruffez. Les défenseurs de l'environnement ont les yeux rivés sur le Honduras ce matin parce qu'on y attend une condamnation historique. David Castillo va connaître sa peine aujourd'hui. Ce dirigeant d'une société d'hydroélectricité a été reconnu coupable début juillet d'avoir commandité le meurtre de la militante écologiste Berta Cáceres. C'était en 2016, alors qu'elle s'opposait à un projet de barrage dirigé par David Castillo. Une affaire symbolique alors que les assassinats de ce type se multiplient ces dernières années. Nathanaël Charbonnier.
Quelle que soit la peine qui sera prononcée contre David Castillo, 20 ans, 30 ans de prison, elle viendra surtout rappeler que la justice peut passer et condamner ceux qui, au nom du profit, tuent les défenseurs de la planète. Car il n'y a pas que Berta Cáceres, indienne d'origine, qui est morte pour avoir défendu ses terres. Selon les derniers chiffres de l'ONG Global Witness, en 2019, ce sont 219 assassinats du même ordre qui sont recensés, avec à chaque fois un point commun, comme l'explique la députée européenne écologiste Marie Toussaint.
C'est toujours des histoires de David contre Goliath, des personnes qui se retrouvent confrontées à soit des grandes entreprises, soit des grands groupes armés, soit carrément parfois des gouvernements, et qui ne sont pas, il n'y a pas de destin, on n'est pas destiné à être un défenseur de l'environnement. Souvent, c'est simplement parce que on voit soit sa propre terre, sa propre maison, soit celle de ses voisins, qui sont spoliés, détruits, menacés. C'est voilà l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui essayent de se battre pour défendre leurs droits face à des entités qui n'en ont que faire et qui sont là pour faire du profit. C'est la raison pour laquelle on doit vraiment se tenir à leur côté.
Soutenir les militants écologistes terroristes. Jusqu'au terme des procédures, dans l'affaire de Berta Cáceres, ce sont déjà 8 personnes qui ont été condamnées et d'autres pourraient encore venir les rejoindre.
Nathanaël Charbonnier. Et au Nicaragua voisin, le président Daniel Ortega est officiellement candidat à un quatrième mandat avec son épouse comme colistière, la vice-présidente Rosario Murillo. Leur parti a validé le ticket à l'unanimité. L'élection aura lieu en novembre. Ce devrait être une formalité pour Daniel Ortega, puisque les principaux candidats d'opposition ont tous été arrêtés ces dernières semaines en vertu de lois adoptées fin 2020 qui réduisent au silence toute opposition politique dans ce pays de 6,5 millions d'habitants.
France Inter, 8h10, la suite du journal avec vous, Kevin Dufraîche. Il en a déjà 2, mais il rêve encore de médailles olympiques.
Troisième jeu pour Renaud Lavillenie à Tokyo, qualifié en finale du saut à la perche qui aura lieu aux alentours de midi, heure de Paris tout à l'heure. Le Français déjà champion olympique à Londres et médaillé d'argent à Rio. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
En direct de Tokyo, Jérôme, les obstacles sont nombreux hein, malgré tout sur la route de Renaud Lavillenie.
Et d'abord parce que Renaud Lavillenie est arrivé au Japon blessé, une entorse à la cheville qui lui a causé bien des frayeurs en qualification samedi. C'est passé tout juste avec un saut à 5,75 m, mais le Français sera bien là tout à l'heure sur le sautoir. En fait, le plus gros obstacle pour lui s'appelle Armand Duplantis, le Suédois de 21 ans, visage poupon, une précocité rare pour celui qui détient le record du monde depuis début 2020 avec un saut à 6,18 m. Depuis le début de sa jeune carrière, il a passé cette barre mythique des 6 mètres à 21 reprises. Seul le pionnier ukrainien Sergueï Boubka a fait mieux avec 44 sauts à plus de 6 mètres. Mais pour combien de temps encore? Duplantis est né aux États-Unis en Louisiane, mais il a pris la nationalité de sa mère, une ancienne heptathlonienne suédoise. Son ascension, vous l'avez compris, est fulgurante jusqu'au sommet et peut-être jusqu'à détrôner tout à l'heure ici au Japon celui qui reste son idole, celui dont il avait les posters dans sa chambre d'enfant, un certain Renaud Lavillenie.
Jérôme Val en direct de Tokyo grâce aux équipes techniques de Radio France. Merci. Et à noter à 10h une première au JO avec les grands débuts de l'escalade en mode olympique. 2 Français sont en lice.
Il avait promis, lui, de mettre le paquet sur la sécurité.
Laurent Wauquiez, président réélu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, toute la semaine, France Inter vérifie si les premières promesses des présidents reconduits en juin dernier sont tenues. Et on s'intéresse donc ce matin aux mesures annoncées pendant la campagne par le président Les Républicains d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.
L'objectif pour nous est de doubler demain le budget de la sécurité. Pouvoir travailler sur mettre plus de police ferroviaire dans nos trains et nos gares, mettre en place des brigades régionales pour pouvoir sécuriser nos lycées et nos enfants, mais aussi travailler sur des caméras reconnaissance faciale pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et puis il y a enfin un domaine qui nous semble indispensable, qu'on supprimera l'accès aux aides de la région sur demande des maires pour des délinquants multirécidivistes. Les gens qui voteront pour nous le savent, on agira sur la sécurité.
Laurent Wauquiez, lors de la présentation de son programme le 7 juin dernier, à votre micro, Mathilde. Et plus d'un mois après, Mathilde, le président de la région a-t-il lancé son offensive contre l'insécurité ?
Il en a même fait la toute première délibération du mandat. Séance plénière du 18 juillet, alors que les groupes politiques n'ont pas encore de nom officiel, que le règlement intérieur vient tout juste d'être entériné, Laurent Wauquiez fait voter son plan sécurité. Avec un budget doublé, effectivement, il passe de 160 à 300 millions d'euros, répartis entre des mesures qui renforcent l'existant, plus d'effectifs pour la police ferroviaire, plus de caméras en gare, et des volets plus sensibles. Arrivée de la vidéosurveillance dans les cars scolaires, ou encore de la reconnaissance faciale, de la hurle l'opposition.
Nous préférerons toujours l'efficacité des politiques menées aux effets d'annonce. Reconnaissance faciale, fin des aides régionales. Vous savez bien que les textes légaux ne vous autorisent pas à grand-chose au-delà de toutes Merci. Les discussions que nous avons ici.
La socialiste Najat Vallaud-Belkacem remontée, mais Laurent Wauquiez est prudent. Sa délibération parle de vidéosurveillance à titre expérimental, accessible aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux enquêteurs. Il connaît la loi et elle autorise la reconnaissance faciale uniquement à posteriori pour retracer le parcours de l'auteur d'un délit ou d'un crime. L'essentiel pour le Républicain est d'entériner des axes d'action dès les premiers jours du reste de sa carrière régionale et à quelques mois de la présidentielle dans laquelle il entend d'une manière ou d'une autre jouer un rôle de premier plan.
Mathilde Imberti, demain suite de notre Tour de France, on s'intéressera à la région Nouvelle-Aquitaine et à son président Alain Rousset. Enfin, un baron chez une marquise, le capitaine Fracas, célèbre personnage du roman de Théophile Gautier, de nombreuses fois adapté, est au théâtre au château de Grignan dans la Drôme, château de la marquise de Sévigné. Le baron de Sigognac est mis en scène par Jean-Christophe Ambert, acteur et bras droit d'Alexandre Astier sur la série Kaamelott, un spectacle grand public qui célèbre le théâtre. Stéphane Capron.
Deux fracasses, on connaît le film avec Jean Marais. Au théâtre, il y a eu l'adaptation de Philippe Léotard en 66 pour le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine. Ce roman épique qui raconte l'histoire du baron de Sigognac déchu de ses droits qui rejoint une troupe de comédiens pour renaître sous les traits de fracasses. Et pour le metteur en scène Jean-Christophe Humbert, une déclaration d'amour au théâtre.
C'est un roman qui parle de théâtre et moi qui m'a touché parce qu'il parle de la fabrication du théâtre, il parle de la condition des acteurs et surtout Théophile Gautier, c'est quelqu'un qui vivait une époque où le théâtre était un vrai sujet de société, c'est-à-dire comme c'est comme le vaccin aujourd'hui, c'est-à-dire que lui à la bataille d'Hernani, il était là en première ligne entre les modernes et les anciens. Ça paraît un peu désuet et fou aujourd'hui de se dire que la société était déchirée sur un sujet d'une représentation de théâtre. Lui, il était dedans.
Thomas Cousseau interprète le rôle titre.
C'est un siècle que je pratique beaucoup en tant que lecteur. Je lis beaucoup à des gens, Flaubert, Stendhal, Hugo, enfin voilà, ces auteurs qui sont ses contemporains. Mais celle-là, c'est un bosquet de fleurs, c'est vraiment une langue passionnante.
C'est un bel été pour Thomas Cousseau, car il est aussi Lancelot dans le film Kaamelott qui cartonne au cinéma. Il y a d'ailleurs un peu de l'esprit de la série dans le spectacle, qui malheureusement utilise de grosses ficelles de mise en scène au détriment de la finesse du jeu d'acteur.
Stéphane Capron et Fracasse, c'est jusqu'au 21 août à Grignan dans le cadre des fêtes nocturnes.
C'était le journal de Kevin Dufraîche, la météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, qu'apprend-on? Quoi ça? Le soleil fait acte de présence, incroyable.
Oui, il daigne apparaître ce matin sur le pourtour méditerranéen, mais ne restera bien actif cet après-midi que sur l'île de Beauté, se recouvrant d'un voile de nuages d'altitude près de la Grande Bleue. Partout ailleurs, il passera sa journée à jouer à cache-nuages, et force est de constater qu'il domine le jeu car il est quasiment introuvable. Ce matin, il profite que la perturbation de cette nuit soit en train de s'évacuer vers l'est pour laisser passer entre deux averses quelques rayons des Hauts-de-France au centre. Il est aussi plus visible au réveil des Pyrénées jusqu'aux Alpes, tout juste planqué par un voile de nuages accompagné d'un peu de vent. Cet après-midi, le jeu est plié. Les nuages et les averses à caractère orageux qui s'étiraient ce matin de la Bretagne à toute la côte atlantique jusqu'aux frontières du Benelux vont s'évacuer par l'Alsace, laisser traîner une couverture nuageuse bien dense sur l'ensemble de l'Hexagone, lâchant parfois quelques ondées, voire un coup de tonnerre à l'est, mais ne laissant percer quelques rayons que de manière très anecdotique.
Et le mercure joue au même jeu, mais avec les températures.
Il est à fond dans les clichés, donc plus facile à débusquer. Il planque les valeurs les plus chaudes, 25-30 degrés. Au sud-est, ailleurs, il fait de l'anti-jeu estival, il confine les températures sous les normales, 3 à 6 degrés. Il ne fera pas plus de 19 à 24 degrés en général, 19 à La Rochelle, 21 à Paris, 23 à Bourg-en-Bresse, mais 29 à Tarascon.
Eh bien, à l'heure, Stéphanie Fromentin, 8h18, géopolitique.
Le 6-9, listen anywhere. Huawei, Wahdahou min Souria. Sur France Inter.
Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Ce matin, c'est la situation au Pérou sur laquelle vous avez voulu revenir.
Oui, parce que même pour ceux qui se souviennent des épisodes précédents, l'élection présidentielle remportée, vous savez, le 6 juin avec 40 000 voix d'avance par Pedro Castillo, un instituteur andin issu de la gauche radicale, il n'est pas inutile de faire une petite anti-sèche. Il a fallu 43 jours après ce scrutin acrimonieux pour que tous les recours soient épuisés et que Keiko Fujimori, l'adversaire malheureuse de Pedro Castillo, eh bien reconnaisse à mi-voix d'ailleurs sa défaite. Il y a quelques jours enfin, le 28 juillet, c'était donc l'investiture. Il ne restait plus qu'à désigner un premier ministre et des ministres importants pour parfaire cette prise de pouvoir. Le suspense était entier. Le nouveau président n'avait accepté aucune interview depuis le 9 mai, c'est-à-dire avant le premier tour.
Ne faites pas durer le suspense comme ça, Anthony Bélanger.
Un tout petit peu encore. Pour remporter la présidentielle, Pedro Castillo a dû modérer un discours très à gauche et se trouver des alliés. Fini les diatribes marxistes-léninistes. À nous, la social-démocratie. La réforme, la promesse de consensus. Grâce à cela, il s'est rallié quelques noms qui ont su rassurer, comme Pedro Franque, un économiste réputé destiné à devenir son ministre des Finances, ou Aníbal Torres, un prestigieux avocat. Il ne restait plus qu'à parfaire le tableau avec donc un premier ministre. Et là, patatras. Ce week-end, dans une spectaculaire cérémonie à Ayacucho, en plein air, sur les lieux d'une bataille célèbre contre les Espagnols, entouré de la cordillère des Andes et d'un bleu andin à couper le souffle, le président Castillo nomme pour Premier ministre un quasi-inconnu. Il s'appelle Guido Bellido Ugarte.
Et ça, c'est un problème.
Ben oui, parce que c'est avant tout un dur admirateur du régime cubain et du vénézuélien Chavez, et ouvertement homophobe en plus. Bref, les ministres modérés se braquent, la monnaie s'effondre, la bourse s'effrite, il fallait rattraper le coup. Le Premier ministre marxiste-léniniste s'est donc fendu d'un communiqué apportant tout son soutien à l'économiste distingué pressenti pour être Premier ministre des Finances et ajouté qu'il rejetait toute forme d'extrémiste. Bref, une vraie déculottée en direct et en public. Je rappelle pour mémoire que cette pantalonnade se passe dans un pays ravagé par la pandémie de Covid-19 avec près de 200 000 morts pour 32 millions d'habitants, ce qui en fait le pays avec la plus importante mortalité épidémique au monde.
En nommant ce Premier ministre, le Président avait bien une idée derrière la tête.
Oui, il a voulu réconcilier, vous savez, les deux gauches, la gauche radicale, qui en Amérique latine l'est particulièrement radicale, et la gauche réformatrice qui là-bas, comme ici d'ailleurs, ne veut pas entendre parler de castrisme ou de sa version plus récente, le chavisme. Entendons-nous bien, les Péruviens réclament des écoles gratuites et un service de santé mieux financé et équipé. La pandémie a mis en évidence la nécessité impérieuse d'une redistribution des richesses au Pérou comme dans toute l'Amérique latine. Mais ce n'est pas en tentant de satisfaire ces deux gauches irréconciliables que Pedro Castillo parviendra à gouverner. C'est en négociant la réforme avec un Parlement qui, en plus, ne lui est pas acquis et il n'a que quelques mois devant lui pour y parvenir.
Merci Anthony Bélanger. À demain, à suivre le grand entretien avec la PS Valérie Rabault. Restez avec nous sur France Inter.